Bonjour et bienvenue dans les coulisses policières de l'Europe, ce tout nouveau podcast consacré à un sujet d'actualité brûlant. Et si aujourd'hui on revenait une nouvelle fois sur la présidence belge de l'UE en 2010, lorsque la Belgique a lancé un bon nombre de projets européens, parmi lesquels le cycle politique de l'Union européenne MPACT. Les projets MPACT sont à l'Union européenne ce que le plan national de sécurité est à la Belgique. Il est donc grand temps de nous pencher davantage sur l'une des nombreuses priorités du cycle politique actuel de l'Union européenne. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Lotoffier et François Farcy qui vont nous parler du plan d'action opérationnel sur les réseaux criminels à haut risque, aussi appelé OAP ou HCRN. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'un OAP ?
L'OAP, en fait, c'est une partie opérationnelle de ce qu'on appelle les Impact Projects au niveau européen. Donc, pour faire simple, les Impact Projects sont au niveau européen ce qu'est le plan national de sécurité en Belgique. Donc, c'est formé sur base de ce qu'on appelle le SOCTA, le Serious Organized Crime Threat Assessment, donc l'analyse de la menace au niveau européen en matière de criminalité organisée. Et tous les quatre ans, l'Union européenne, et à travers notamment Europol, décide des priorités européennes qui vont être mises en œuvre. Et pour les concrétiser, les projets MPACT, qui sont des projets multidisciplinaires, définissent ou font le choix de mettre en œuvre toute une série d'OAP, les Operation Action Plan, par thématique. Des thématiques soit liées à des phénomènes comme le trafic de drogue, la traite des êtres humains. Et ici, pour la première fois, on approche sur le crime organisé.
Mais en parlant de crime organisé, dans ce cas, est-ce que vous avez réussi à définir quels sont les réseaux criminels à haut risque, justement ?
Justement, l'un des buts de cette OAP est de déterminer quelles sont les organisations criminelles les plus à risque, où elles sont situées, où elles sont actives, et la collaboration entre ces différentes organisations criminelles, puisqu'il n'y a plus de frontières réellement.
Ok, d'accord, je vois mieux. Peut-être que vous pourriez aussi nous partager un petit peu qui êtes-vous et quel est votre rôle un peu dans ce projet ?
Donc, moi, je suis François Farcy, je suis actuellement directeur judiciaire de la police judiciaire fédérale de Liège, mais j'ai aussi dans mes attributions ce qu'on appelle un portefeuille. Chaque directeur judiciaire a plus ou moins un portefeuille, qui est celui de la criminalité organisée, et je suis notamment, avec un collègue, manager du programme CRIMORC dans le cadre du plan national de sécurité 2022-2025. Et dans ce cadre-là, un des objectifs de ce plan national de sécurité CRIMORC, comme on va l'appeler, c'est de développer la coopération policière internationale, d'où notre implication dans les projets MPACT.
Voilà, je m'appelle Jean-Luc Lotoffier, je travaille à la direction de la PJF de Liège, où je m'occupe de la coopération policière internationale. Et dans le cadre du programme dirigé par M. Farcy, mais également dans le cadre de l'OAP en tant que joint driver et également en tant qu'action leader sur une des actions opérationnelles qui a trait à la collaboration entre les organisations criminelles d'Amérique latine et des Caraïbes avec les européennes.
Ok, on m'a aussi beaucoup parlé de l'Italie et de la Belgique. L'Italie qui est considérée comme driver et la Belgique comme co-driver, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez aussi un peu mieux nous expliquer ce que ça signifie ?
En réalité, un cycle sur un OAP est de 4 ans. C'est un nouvel OAP, comme on vous l'a dit, puisque l'approche un petit peu différente de ce qui existait auparavant, c'est qu'elle est transversale. Donc on ne va pas travailler sur des containers, on ne va pas travailler uniquement sur un trafic de stupes, sur un trait des êtres humains, on va travailler de manière transversale. Donc ça c'était l'idée. Il faut trouver un driver. Driver c'est celui qui va diriger toute l'OAP, qui va gérer toute l'OAP. La Belgique, puisque nous étions à la base du projet, nous nous sommes évidemment proposés. Et l'Italie, qui est très active sur le plan international, voulait absolument être driver aussi. Donc on a bien sûr trouvé un compromis. Nous avons assuré le drivership pour les deux premières années, avec les Italiens notamment comme joint driver et avec des co-drivers, qui sont l'Espagne, l'Autriche et Europol. Et à l'issue des deux premières années, on a passé la main aux Italiens, mais en étant maintenant leur joint driver.
Je rebondis parce que vous nous avez parlé de avant, donc avant le projet Impact, avant l'OAP, comment est-ce que ça fonctionnait ?
Impact existe depuis quelques années hein, et il est devenu pérenne à partir de 2022, mais l'OAP HRCN, c'est sa première année, c'est un nouveau bébé.
D'accord, je vois. Mais moi, je me demande surtout, quel est le rôle concret de la Belgique dans tout ça ?
Il est clair que comme driver, on a la responsabilité de coordonner toutes les actions, puisqu'on est, en tout cas les deux premières années, on avait déjà 32 actions répertoriées au sein de l'OAP, donc c'est quand même très large. Donc on doit coordonner ça. Chaque action qu'on appelle les operational actions sont pilotées par ce qu'on appelle un action leader, qui peut être issu de différents pays, différents membres de l'Union européenne, voire une agence. Ça peut très bien être Europol, ça peut être EMCDDA sur la lutte contre les drogues, ça pourrait être Frontex par exemple, mais il y a chaque fois des action leaders qui, là, eux, évidemment, déclinent leur activité en activité très opérationnelle. Donc, organiser des actions communes, soutenir des enquêtes, développer des produits aussi d'analyse, par exemple, organiser des meetings plus techniques au niveau de l'échange d'expertise. Donc, il y a notamment des aspects très techniques comme les crypto-monnaies ou l'approche des communications cryptées. Donc la Belgique, dans ce cadre-là, coordonne un peu tous ses OA, est chargée évidemment de tout l'aspect rapportage, mais aussi de la gestion du budget, puisque chaque impact dispose d'un budget, et quelque part il y a une fonction comptable aussi pour le driver.
Et en termes de résultats, est-ce qu'on a des espérances spécifiques ? Est-ce qu'on peut se permettre d'en avoir ?
L'idée est bien sûr d'être opérationnel le plus rapidement possible. On sait bien d'apprendre comment ces organisations fonctionnent, c'est bien d'améliorer les mécanismes de collaboration. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. On ne parle pas uniquement de forces de police. Donc ici, au sein d'une OAP, en tout cas de la nôtre, on va retrouver des douaniers, on va retrouver des magistrats. Le système judiciaire est impliqué également. On va retrouver une dimension pénitentiaire. Parce que, par exemple, en Amérique du Sud, bon nombre d'organisations criminelles sont dirigées au départ des prisons. Comme François l'a dit, on a des organisations qui sont parfois financées par l'Union européenne, mais parfois tout à fait extérieures. Il est important aussi de noter que les OAP sont dirigées par des États membres. Donc ce n'est pas Europol, c'est des États membres qui la dirigent. Alors pour revenir à la question initiale, le but est de développer des opérations concrètes, des actions concrètes qui vont permettre de déstabiliser ces organisations criminelles.
Il y a aussi un objectif premier et qui est un peu lié au fait que c'est une nouvelle approche. Donc on l'a dit, cette approche transversale sur les organisations criminelles, c'est qu'avant vraiment de s'y attaquer, même si on le fait déjà au quotidien à travers toutes les enquêtes menées un peu partout, il faut savoir à quoi s'attaquer. Donc un des objectifs prioritaires de cette OAP dans cette première période de 4 ans, en espérant le prolonger, c'est de réaliser une image des organisations criminelles en Europe. Ce qu'on a appelé l'Organized Crime Mapping, donc une cartographie des organisations criminelles qui sont soit implantées en Europe, soit actives en Europe, ou qui sont et implantées et actives, donc les deux.
Soit implantées en Europe, soit actives en Europe, ou même peut-être les deux, mais est-ce qu'on a des partenaires spécifiques de manière générale ?
Au sein de l'OAP, comme je vous l'ai dit, on a, on va dire, une cellule qui assure le drivership. Donc pour l'instant, c'est l'Italie avec nous comme joint driver et co-leader, l'Espagne, l'Autriche et Europol. Mais nos partenaires, en fonction des actions opérationnelles, peuvent être totalement différents. Il est clair que pour le mapping au sein de l'Union européenne, on aura forcément, tous les pays membres participent parce qu'ils se rendent bien sûr compte de l'importance et de la plus-value du projet. Par contre, Il y a différentes OA qui sont réparties sur différents thèmes. Il y en a notamment une, enfin, plusieurs actions opérationnelles qui concernent ce qu'on appelle l'external dimension. Donc là, on est tout à fait dans d'autres régions du monde. C'est aussi bien l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie. Donc, en fonction des actions opérationnelles, les partenaires sont tout à fait différents. Les principaux partenaires sont bien évidemment les États membres de l'Union européenne.
Mais on a de fait développé des actions opérationnelles extérieures aussi. Quand je disais les organisations criminelles présentes en Europe, mais celles qui sont actives en Europe, prenez l'Amérique latine, hein, on parle de trafic de cocaïne, mais il y a évidemment nécessité de développer un partenariat avec les pays d'Amérique latine, mais pas uniquement, et comme le disait Jean-Luc, aussi avec des organisations ou des agences internationales. Donc on a parlé de Frontex qui intervient dans certaines de nos opérations. On a aussi des organisations Amérique latine, donc par exemple El Pacto, qui est aussi quelque part un projet soutenu par l'Union européenne et qui vise à développer le partenariat entre ce qu'on appelle les Law Enforcement Agencies entre l'Europe et l'Amérique latine et les Caraïbes. Okay. Vous avez des associations de magistrats, vous avez Eurojust participe à certaines actions opérationnelles. Donc il y a vraiment un nombre très important de participants suivant les actions qu'on mène.
Un projet bien conséquent.
Oui, c'est assez conséquent, d'autant plus qu'au-delà de l'équipe de drivership, donc pour piloter l'ensemble, certaines actions opérationnelles, certaines OA sont aussi sous leader belge. Jean-Luc, par exemple, est le leader d'une action qui vise à la coopération avec l'Amérique latine. Okay. On a un collègue qui s'occupe d'un projet à développer qui est vraiment très petit parce qu'on doit avoir des ambitions parfois modestes. Parfois, c'est uniquement amorcer coopération, par exemple, avec l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus d'organisations criminelles qui s'implantent là-bas. Et l'Afrique de l'Ouest est moins connue, mais est aussi une voie d'approvisionnement en matière de cocaïne venant de l'Amérique latine et qui remonte alors par le Maghreb via l'Espagne. Donc ce sont c'est vraiment un peu aussi, comme c'est la première fois, un laboratoire d'expérimentation de différentes actions à développer. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe assez bien.
Oui, je vois. C'est vrai que je sais que chaque année, le projet HCRN publie ses chiffres. Est-ce que la Belgique est satisfaite des chiffres de 2022 ?
Mais de nouveau, les résultats, on attend évidemment des résultats en nombre d'arrestations, de saisies, etc. Les résultats, ce n'est pas seulement ça. Le premier résultat, comme François vient de le dire, c'est d'abord le mapping. Donc on sache à qui il faut combattre, hein, et où. C'est un résultat en soi, même s'il est, il est quantifiable, puisqu'on peut avoir, on va avoir un nombre d'organisations criminelles. Au-delà de ça, comme on vous l'a dit, il y a des actions opérationnelles qui sont au début, on amorce, donc on doit essayer de comprendre comment ces organisations fonctionnent, comment elles sont liées ici avec l'Union européenne, les organisations criminelles de l'Union européenne, mais de l'Europe aussi, parce qu'on a des organisations criminelles de l'Europe qui ne sont pas de l'Union européenne, mais actives au sein de l'Union européenne. Alors, les chiffres, bon, ils varient. C'est clair qu'il y a quelques tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Il y a énormément d'argent qui a été saisi, puisque le focus porte essentiellement aussi sur follow the money, hein. Donc, on va essayer de retrouver, sinon l'argent du crime, au moins ce qu'il est devenu, parfois et même souvent dans les pays d'origine. Donc voilà, les résultats paraissent effectivement chaque année après le rapportage, mais je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas importants, parce qu'ils le sont bien sûr, ils sont visibles, mais ils vont aller en s'accroissant. Il n'y a que 2 ans que cette OAP existe, et on a déjà objectivement de fameux résultats.
Et le reporting 2023 est en cours, enfin il se clôture, donc on vient de le terminer. Donc.
Je viens de le terminer.
Oui, c'est vrai ça, c'est vrai qu'il y aura aussi 2023. D'ailleurs, il y a eu le COSI informel, le 6 et 7 février dernier. Monsieur Farcy, vous avez fait une présentation sur ces réseaux criminels à haut risque justement. La présidence belge avait reçu un soutien assez large sur la valeur ajoutée de ce type d'exercice de cartographie justement dont vous parliez juste avant, ce qui est très positif je pense vu que c'était notre objectif. Mais est-ce que vous êtes satisfait du débat qui a eu lieu lors de la réunion informelle COSI ?
Oui, tout à fait, puisque étant donné que c'était un des, je l'ai dit, un des objectifs premiers de l'OAP et qu'on en avait le pilotage, on a estimé qu'il était peut-être important de faire passer ça aussi comme une des priorités de la présidence belge ici durant les 6 premiers mois. Donc on a développé cet exercice de dossier mapping, donc de cartographie des organisations criminelles, avec le soutien de la Commission européenne, qui est aussi très demandeuse à ce niveau-là, de pas mal d'autorités, une prise de conscience dans les États membres. Et donc, de fait, on a pu présenter ça au COSI informel, avec un peu de, je vais dire, de stress, parce qu'on n'avait pas vraiment une idée de la réaction de tous les États membres. Bon, on savait qu'une grande partie d'entre eux était assez favorable à cet exercice, parce que c'est un peu l'approche, comme je le dis, du diagnostic. C'est qu'avant de s'attaquer à une maladie, il faut savoir de quoi on souffre. Voilà. Et finalement, on a été très heureux de constater lors de ce COSI qu'on avait un soutien, en fait, finalement, assez unanime des États membres, d'Europol, d'Eurojust, de la Commission. Et donc ici, il y a un premier exercice qui est en cours que l'on réalise avec l'équipe d'Europol du SOCTA sur l'analyse de la menace. Et cet exercice, dont les premiers résultats sont assez encourageants, sera publié dans le courant du mois d'avril et présenté alors officiellement au COSI.
Ok, super. Bah, je pense avoir un peu toutes les informations dont j'avais besoin. Merci énormément à tous les deux pour toutes ces informations. Merci. Hyper complètes. Et voilà qui nous ramène à la fin de ce podcast. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons continuer à accueillir des invités hyper intéressants qui vont continuer de partager leurs connaissances et leurs points de vue sur les dossiers européens dans les semaines à venir. Restez à l'écoute et abonnez-vous afin d'être immédiatement informé de la mise en ligne du prochain podcast. À la prochaine!